Chapitre 6, pour un bon équilibre. La source de la vraie joie, il y a des gens à l'imagination maladive pour lesquels la religion est un tyran qui les gouverne avec une verge de fer. Ils se lamentent constamment de leur dépravation, et gémissent sur quelque mal supposé. Il n'y a pas d'amour dans leur cœur. Ils ont toujours une mine renfrognée. Ils sont choqués par le rire innocent d'un enfant ou de quelque autre personne. Ils considèrent toute récréation et tout amusement comme un péché. Ils pensent que l'on doit être sans cesse austère et rigide comme eux. C'est là un extrême. L'autre extrême consiste à croire que l'esprit doit être constamment en éveil pour inventer de nouveaux divertissements afin de conserver la santé. Il s'agit alors d'être dans un état de continuelle excitation dont il est difficile de se priver lorsqu'on en a pris l'habitude. De telles personnes ne sont pas de vrais chrétiens. Les vrais principes du christianisme créent en nous une source de bonheur dont on ne peut mesurer la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur. C'est le Christ en nous, source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. On peut s'y abreuver sans cesse, elle ne s'épuisera jamais. L'esprit de prophétie et les enseignements, 527. Une exaltation passagère, nous ne devons pas encourager un type d'enthousiasme qui produit un zèle passager, suivi d'une crise de découragement. Nous avons besoin du pain de vie qui vient du ciel pour vivifier notre âme. Étudiez la parole de Dieu. Ne vous laissez pas dominer par vos impressions. Ceux qui travaillent au service du Maître doivent apprendre à ne pas confondre la foi et les impressions. Il ne nous est pas demandé d'être continuellement en extase. Mais il nous est demandé d'avoir profondément confiance en la parole de Dieu, qui est la chair et le sang du Christ. Ni froide orthodoxie ni libéralisme inconsidéré, pour réussir, une réforme doit avoir comme point de départ la perception nette d'une vérité fondamentale. S'il faut se méfier d'une philosophie étroite ou d'une froide orthodoxie, le libéralisme inconsidéré présente un danger beaucoup plus grand. Le fondement de toute réforme durable, c'est la loi divine. Chacun doit comprendre la nécessité d'obéir à celle-ci. Que ses principes, aussi éternels et absolus que Dieu lui-même, soient connus de tous. Des esprits bien équilibrés, les Épîtres parlent beaucoup de la nécessité d'être ferme dans la foi, ce qui devrait nous faire comprendre la nécessité d'être prudent. Nous ne devons pas mêler à notre expérience nos propres inclinations, et nos traits de caractère dominants. Cela dénaturerait la valeur, la grandeur, la noblesse des principes de vérité, et égarerait nos semblables. La fermeté dans la foi implique davantage que beaucoup ne l'imaginent. Cela signifie rectifier toutes les erreurs qui demeurent dans nos pensées et dans nos actions, afin que nous n'altérions pas la parole de Dieu. De nos jours, on a besoin d'esprits bien équilibrés, de chrétiens en bonne santé et exemplaires. Parmi ceux qui se réclament du Christ, nombreux sont ceux qui sont maladifs et incapables de supporter la moindre contrariété. S'ils sont l'objet d'un manque d'égard, s'ils sont froissés d'une manière ou d'une autre, si leurs frères n'ont pas été aussi affectueux qu'ils l'auraient souhaité, ils perdent courage. Le grand médecin voudrait, grâce à sa compétence infinie, leur redonner la santé morale. Mais ces malades refusent de prendre les remèdes qu'il leur offre. De telles personnes peuvent momentanément appliquer la parole de Dieu à leur cas, mais elles n'agissent pas conformément à cette parole. Elles deviennent bientôt le jouet d'influences conformes à leur penchant naturel et finissent par perdre tout ce qu'elles ont gagné. Nécessité de développer toutes les facultés, si nous négligeons telle faculté au profit de telle autre, le dessein de Dieu ne s'accomplit pas entièrement en nous, car toutes nos facultés sont interdépendantes et réagissent l'une sur l'autre dans une grande mesure. L'une ne peut s'exercer efficacement sans le secours des autres, sinon l'équilibre n'est pas assuré. Le développement exagéré de telle ou telle qualité de l'esprit conduira les individus à des extrêmes. Il est des gens dont l'intelligence est atrophiée et sans équilibre. Tous les esprits ne sont pas d'ailleurs identiquement constitués. Certaines facultés sont très développées chez les uns, et très peu chez les autres. Ces déficiences, si apparentes, ne sont pas une fatalité. On devrait s'efforcer de faire disparaître ces points faibles par un exercice approprié. Toutes les facultés mentales mises à contribution, pour que les hommes et les femmes aient des esprits bien équilibrés, toutes leurs facultés mentales devraient être mises à contribution et développées. Le monde est plein d'hommes et de femmes à l'esprit bancal qui sont devenus tels parce qu'une partie de leurs facultés a été cultivée, tandis que les autres se sont étiolés par l'inaction. L'éducation de la plupart des jeunes est un échec. Ils étudient trop, tandis qu'ils négligent les côtés pratiques de la vie. Hommes et femmes deviennent parents sans mesurer leurs responsabilités, et leurs enfants tombent plus bas qu'eux dans l'échelle des déficiences humaines. C'est ainsi que la race dégénère rapidement. L'application constante à l'étude, telle qu'elle est enseignée de nos jours, 1872, ne prépare pas comme il convient la jeunesse en vue de la vie pratique. L'esprit humain est toujours en activité. S'il n'agit pas dans la bonne direction, il agira dans la mauvaise. Si l'on veut sauvegarder l'équilibre de l'esprit, il faut, dans nos écoles, associer le travail manuel à l'étude. Des moyens à la portée de tous, on a besoin de jeunes hommes intelligents, qui apprécient les facultés mentales que Dieu leur a données et les cultivent avec le plus grand soin. L'exercice de ces facultés mentales les développe, et si par ailleurs la culture de l'âme n'est pas négligée, le caractère sera bien équilibré. Les moyens de perfectionnement sont à la portée de tous. Que nul donc ne déçoive le maître, en ne lui offrant que des feuilles, alors qu'il vient chercher du fruit. Un objectif bien arrêté, sanctifié par la grâce du Christ, accomplira des merveilles. L'être tout entier au service de Dieu, celui qui aime et craint vraiment le Seigneur, qui s'applique de tout son être à accomplir sa volonté, mettra son corps, son esprit, son cœur, son âme et sa force au service de Dieu. Ceux qui sont déterminés à faire cause commune avec la volonté du Très-Haut doivent le servir et lui plaire en toutes choses. Ainsi, la personnalité sera harmonieuse, bien équilibrée, stable, sereine et limpide. Primauté des facultés de l'esprit sur le corps, la véritable éducation concerne l'être tout entier. Elle nous permet de tirer le meilleur parti possible de notre cerveau et de nos muscles, comme de notre cœur. Que les facultés de l'esprit gouvernent le corps et que les appétits et les passions vulgaires soient placés sous le contrôle de la conscience. Le Christ est le chef de l'humanité, il désire nous conduire dans les sentiers de la pureté. Par sa grâce merveilleuse, nous devenons parfaits en lui. Ouverture d'esprit, ceux qui sont au service de Dieu doivent faire preuve d'une grande ouverture d'esprit. Autrement dit, ils doivent être des hommes sans préjugés, qui n'ont pas de manie, qui évitent les sentiers battus et qui sont capables de comprendre que leur langage et leur présentation de la vérité ont besoin d'être adaptés au type de gens au milieu desquels ils vivent et aux circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Tous devraient sans cesse viser à acquérir un esprit bien développé et à surmonter les caractères mal équilibrés. Telle doit être votre recherche constante, si vous voulez être un ouvrier utile, qui obtient des résultats. Banalité et futilité nuisent aux facultés mentales, il faudrait inculquer à chaque étudiant l'idée que l'éducation est un échec si l'on n'a pas appris à se pénétrer des vérités de la révélation divine et si le cœur n'a pas accepté les enseignements de l'évangile du Christ. L'étudiant qui, au lieu des grands principes de la parole de Dieu, adopte des idées banales et qui permet que son temps et son attention soient absorbés par des futilités, verra son esprit s'étioler et s'affaiblir. Il aura perdu son pouvoir de croissance. L'esprit doit être exercé à comprendre les vérités majeures qui concernent la vie éternelle. Ne pas encombrer l'esprit de sujets inutiles, l'éducation, telle qu'elle est dispensée de nos jours, 1897, dans nos écoles est bancale, donc erronée. Ayant été rachetés par le Fils de Dieu, nous sommes sa propriété. Tous devraient donc recevoir une éducation à l'école du Christ. Des enseignants avisés devraient être choisis pour nos établissements scolaires. Ces enseignants ont à s'occuper des esprits humains, et ils assument devant Dieu la responsabilité de leur inculquer la nécessité de connaître Jésus comme sauveur personnel. Mais nul ne peut véritablement éduquer ceux qui sont la propriété de Dieu s'il n'a lui-même appris à enseigner à l'école du Christ. Je dois le dire d'après la lumière que Dieu m'a donnée. Je sais que des étudiants ont dépensé beaucoup de temps et d'argent pour acquérir des connaissances qui ne sont que pacotilles, car elles ne leur permettent pas d'aider leurs semblables à se forger un caractère qui leur permettrait de se préparer à s'associer un jour aux élus et aux anges dans l'école d'en haut. Au lieu d'encombrer l'esprit des jeunes d'une masse de choses répugnantes qui, dans la plupart de cas, ne leur serviront jamais à rien, mieux vaudrait leur donner une éducation pratique. De l'argent et du temps sont ainsi gaspillés pour acquérir des connaissances inutiles. L'esprit devrait être formé avec soin et sagesse pour qu'il s'attache aux vérités bibliques. Le premier objectif de l'éducation devrait être d'apprendre comment nous pouvons glorifier Dieu à qui nous appartenons par droit de création et de rédemption. L'éducation devrait nous rendre capables de comprendre la voie divine. Comme les sarments du vrai cep, la parole de Dieu offre de l'unité dans la diversité. Elle renferme une unité parfaite, surhumaine, mystérieuse. Elle contient une sagesse divine qui est le fondement de toute vraie éducation. Mais le Saint-Livre a été traité avec indifférence. Aujourd'hui, comme jamais auparavant, nous avons besoin de comprendre la vraie science de l'éducation. Si nous ne la comprenons pas, nous n'aurons jamais une place dans le royaume de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si tel est le prix du ciel, notre éducation ne devrait-elle pas être faite dans ce sens? Christian Educator, août 1897. Proscrire les règles de fer, le Seigneur n'approuvera pas tout moyen par lequel l'homme voudrait dominer ou opprimer ses semblables. Dès lors qu'un homme impose une règle de fer à d'autres hommes, il déshonore Dieu, met en péril son âme et celle de ses frères. Savoir admettre la variété, nous voici réunis avec nos mentalités différentes, nos origines et nos éducations différentes, et nous ne nous attendons pas à ce que tous les esprits suivent une seule et même voie. Mais il importe de savoir si nous, qui représentons les différents sarments, sommes attachés au cep principal. Telle est la question que nous désirons poser aux maîtres comme aux élèves. Nous voulons savoir si nous sommes réellement attachés au cep principal. Si oui, nous avons cependant différentes manières d'agir, différentes intonations, différents timbres de voix. Chacun conçoit les choses d'un certain point de vue, et nous avons des idées différentes les uns des autres au sujet de la Bible, mais non en contradiction avec elle. Mon esprit peut s'engager dans des voies qui lui sont familières, tandis qu'une autre personne peut avoir une pensée, une opinion conforme à ses traits de caractère et éprouver un vif intérêt pour des aspects de la question que d'autres ne perçoivent pas. L'hysope, le cèdre et le palmier, dans tout ce que le Seigneur a fait, rien n'est plus admirable que la diversité des dons qu'il a accordés aux humains. L'Église est un jardin, orné de toutes sortes d'arbres, de plantes et de fleurs. Dieu ne s'attend pas à ce que l'olivier devienne aussi élancé que le majestueux palmier. Nombreux sont ceux qui ont reçu une formation religieuse et intellectuelle limitée. Cependant, Dieu a une œuvre à confier à cette catégorie de personnes, si elles acceptent de le servir avec humilité, en mettant en lui leur confiance. Autant de personnalités différentes que de variétés de fleurs, la prodigieuse diversité de plantes et de fleurs peut nous enseigner d'importantes leçons. Toutes les fleurs n'ont ni la même forme, ni la même couleur. Certaines possèdent des vertus curatives. D'autres exhalent un parfum durable. Certains chrétiens, ou prétendus tels, pensent que tous les autres chrétiens doivent nécessairement être comme eux. Ce sont là des conceptions humaines, qui ne sont pas conformes au plan de Dieu. Dans l'Église du Seigneur, il y a place pour des personnalités aussi variées que les fleurs d'un jardin. Dans le jardin spirituel de Dieu, il y a une abondante variété de fleurs. Toutes nos énergies sont un don de Dieu, il faut que nous ayons conscience des exigences de Dieu. Il faut que mes femmes comprennent leur devoir d'être pures, de se dominer, de s'affranchir de tout appétit dépravé et de toute mauvaise habitude. Toutes nos énergies, morales et physiques, sont un don du ciel et doivent être mises à son service. Équilibre et harmonie, Dieu reprend les hommes parce qu'il les aime. Il veut les voir forts de sa force, bien équilibrés, doués d'un caractère harmonieux. Ils serviront alors d'exemple au troupeau, l'amenant plus près du ciel par leur enseignement et par leur exemple. Ils pourront alors construire un saint temple pour Dieu.